Bien écoutez, je vous propose de commencer maintenant. Hein, d'autres personnes nous rejoignent, ben, ils arriveront au fur et à mesure.
Voilà.
S'il y a des personnes qui n'ont pas de texte, donc bah, dites-le-moi.
Du précédent.
Voilà, c'est du précédent. Voilà, donc il faut mettre à disposition ça avec vous.
Donc c'est ça.
Oui, c'est ça. Alors donc aujourd'hui on va faire à la fois notre deuxième session qui est consacrée aux penseurs du Tao et également le deuxième atelier de lecture. Le premier qui avait eu lieu c'était environ il y a un mois, qui était consacré au confucianisme avec des textes qui étaient tirés des entretiens de Confucius. Je voudrais commencer par faire une présentation un petit peu bibliographique des livres intéressants qui sont publiés sur le taoïsme. Ce ne sera pas une présentation exhaustive, loin de là. Alors le premier d'entre ces livres, c'est le Tao Te Ching, qui parfois en français s'écrit Tao Te King, pour des raisons que je n'essaierai pas d'expliquer. Et donc, souvent vous le trouvez écrit en français comme ça, et toutes sortes d'orthographes. Hein. Parfois ils aiment bien mettre des trémas ou des choses comme ça, c'est écrit chinois. Alors moi j'ai dit ça, je fais comme eux. Hein. Donc j'en mets. Donc ça c'est l'orthographe, vous trouvez beaucoup ce genre de trucs. Alors pourquoi il y a le cas pour le Tao Te Ching en chinois, comme on dit Peking pour la capitale de la Chine, et en français ça s'écrit Pékin avec un K. Donc c'est une graphie qui remonte au 19e et au début du 20e siècle, et dont un certain nombre de sinologues n'ont pas voulu changer. Ce qui prouve qu'on ne continue pas forcément avec ce qui est bon, mais également continuer avec des choses qui sont moins bonnes. L'orthographe actuelle, donc pour ce livre, donc qui est l'un des livres fondateurs du taoïsme, on dit Tao Te Ching en chinois. Alors là, il y a plusieurs versions qui existent. Je pense que ce livre a commencé à être traduit, je crois, les plus anciennes versions que j'ai vues en français datent du 19e siècle, notamment une traduction par un sinologue qui s'appelait Julien, qui est célèbre. C'est une blague parmi les sinologues que d'accueillir toute nouvelle version en français du Tao Te Ching comme un désastre. La raison de cet aspect désastreux un peu des traductions, c'est que finalement il faut reconnaître que le texte est très difficile à comprendre. Et la difficulté, déjà en chinois, de compréhension du texte, fait qu'ensuite, il y a des clés qui nous manquent. Je vous avais dit la fois dernière que des ennemis du taoïsme disent que vu que le texte était écrit sur, comme tous les textes de cette époque-là, sur des sortes de baguettes verticales, des petits morceaux de bambou, à un moment donné, quelqu'un a mélangé les baguettes. Et c'est un petit peu paradoxal, mais c'est vrai que souvent quand on le lit, d'ailleurs, j'ai pris un exemple. Il y a une compréhension du texte qui est difficile. Par contre, malgré vu que c'est un texte maintenant qui remonte à un peu plus de 2400 ans avant nous, quand on le lit en chinois, il y a quand même toujours la poésie qui est liée au texte qui transparaît toujours. Alors même si on ne comprend pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a des choses qu'on éprouve et il y a une beauté de l'expression qui est réelle. Alors justement, parmi les différentes traductions qui existent, moi, personnellement, celle que je préfère, en plus c'est une édition de poche, c'est la traduction qui a été faite dans les années 1950 à peu près, hein, de mémoire, par François Rouang, que je ne connais pas du tout, et Pierre Léris, par contre, que je connais un peu. Pierre Léris était quand même un bon écrivain, enfin, était un grand écrivain français et un excellent traducteur de la langue anglaise. On lui doit les traductions de Shakespeare, on lui doit toutes sortes de traductions. Et Léris, qui était vraiment un grand intellectuel français, attention, c'est pas Michel Léris, hein, c'est Pierre Léris, hein, je précise, a participé à cette traduction. Il a énormément aimé le courant d'esprit qui s'exprime dedans, et je pense que lui-même, en tant que poète, a réussi à rendre, d'une certaine manière, la poésie du texte. Et donc, leur traduction n'a peut-être pas la sécheresse que l'on trouve dans d'autres traductions. Une autre qualité que je trouve dans cette traduction, c'est que dans beaucoup de cas, ils n'ont pas essayé de simplifier le texte. C'est-à-dire que là où le texte garde un côté assez souvent difficile à comprendre, assez abstrus, ils ont rendu le côté abstrus, d'une certaine manière. Donc cette traduction n'est pas forcément très littérale, très proche du texte au mot par mot, mais elle me semble, bien que ce soit une traduction relativement ancienne, elle a plus de 50 ans maintenant, elle me semble meilleure que nombre de traductions modernes, plus modernes du moins. Il est également paru dans la Pléiade, donc la collection prestigieuse de chez Gallimard, deux gros bouquins, je crois, qui s'appellent Les philosophes taoïstes ou quelque chose comme ça, tome 1 et tome 2. Je vous les déconseille vivement. Parce que pourtant, en général, la Pléiade fait des choses de qualité, mais là, a priori, ils n'ont pas eu la fibre taoïsante. Et ils ont repris les vieilles traductions d'un chinois qui s'appelle Lia Kua Huai. Et ces traductions, elles, sont vraiment très simplifiantes. Donc personnellement, je les ai lues. Bon, parfois elles sont bien, parfois elles sont moins bien, mais c'est pas très d'immense qualité. Ils ont également traduit le Zhuangzi, donc qui est peut-être le livre fondamental du taoïsme philosophique, toujours par la même personne. C'est pas non plus formidable. Et ils ont dégoté un truc. Alors là, il y a vraiment que les spécialistes qui connaissent, qui s'appelle le Huainanzi, qui est une sorte de bouquin qui, même en Chine dans le temps, n'était pas considéré comme un livre taoïste, qui maintenant l'est un peu considéré, mais qui est plutôt un livre un peu de mélange philosophique, qui a été écrit par le prince de Huainan, et qui à l'époque essayait de faire une sorte de, je sais pas, de synthèse plus ou moins entre confucianisme et taoïsme. Le truc est présenté sous une manière très protocolaire, avec à chaque fois des phrases symétriques, des choses comme ça. Même en chinois, c'est assez lourd, hein. Et c'est déjà un bon pavé. Et le livre aussi avait de vagues vues politiques pour démontrer, enfin c'était le début de l'Empire, en fait des luttes qui allaient mener à l'Empire chinois, et ce prince-là qui était juste un prince hégémon, mais qui n'était pas tout destiné à devenir un empereur ou quoi que ce soit, enfin qui était en dehors de la compétition, si on peut dire, voulait aussi montrer par là que c'était important qu'il reste des petits princes, bon, chose que l'histoire n'a pas retenue en Chine. Et donc ce livre n'est pas un livre philosophique, donc il est présenté dans cette édition-là comme étant un des chefs de la philosophie mondiale. Bon, ça vaut à peine d'être lu, hein. Mais, dans le même temps, sachant que je crois qu'en français, il y a quand même nombre maintenant de très très bons ouvrages qui paraissent sur le taoïsme. Donc c'est plutôt vers eux que je souhaiterais vous orienter. Alors, à tout mettre, tout honneur, ça c'est paru l'an dernier, c'est le Zhuangzi en français. Ça s'appelle Les œuvres de Maître Chuang. C'est fait par quelqu'un qui est un des spécialistes du taoïsme, qui s'appelle Jean Lévy, et qui a également fait d'autres bouquins. Il a également écrit sur Confucius, c'est également un romancier, ce sinologue. Même ses romans sont tout à fait passionnants. Hein. Là, on rigole bien quand on lit ça. Donc, Jean Lévy. Et donc, ça, c'est très récent. C'est paru en plus dans une maison d'édition qui s'appelle Les éditions de l'Encyclopédie des Nuisances. qui font pourtant des livres très, comment dirais-je, normalement c'est plutôt ce genre de choses qui devraient paraître en Pléiade, je veux dire, si on était dans un système sérieux. Mais bon, ça paraît chez les petits éditeurs, ce genre de choses maintenant. Et donc Jean Lévy a également publié un autre bouquin qui s'appelle Les propos intempestifs. Donc tout ça c'est marqué hein, dans la liste que j'ai donnée aujourd'hui. Les propos intempestifs sur le Chuang-Tzu, qui est un très bon livre. Et sans ça, il y a un autre spécialiste en dehors de Jean Lévy, également en français, du taoïsme, et peut-être que c'est une personne qui en a la compréhension la plus intelligente, c'est Jean-François Bitter. Et ça c'est vraiment formidable, Bitter. Hein. Je veux dire, même en dehors du taoïsme, il y a un spécialiste qui ça s'écrit comme ça. Oui. Bitter. Oui, il a fait un livre sur l'écriture chinoise, Bitter. Alors maintenant, je pourrais t'épuiser. Ou ça, je ne sais pas. Ouais, ah oui, mais vraiment un livre admirable. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui a consacré une bonne partie de sa vie justement à l'œuvre de Zhuangzi. Et c'est très très intéressant, la lecture de Bitter. Donc moi, si vous voulez, de tout ce que j'ai lu, c'est ce que je vous conseillerais. Bon, je n'ai pas tout lu non plus, hein, mais c'est ce que je vous conseillerais vraiment en premier. C'est-à-dire qu'au niveau de la traduction des œuvres phares, le bouquin de Lérif et celui de Paulo Zhuangzu, le bouquin de Lévy, et au niveau de livres écrits dans l'esprit vraiment du taoïsme, pour comprendre un peu cette doctrine qui est quand même très particulière et très éloignée de notre pensée, vraiment en premier l'œuvre de Bitter et également l'œuvre de Jean Lévy. Je trouve que c'est vraiment des livres formidables. Alors justement, pour l'atelier de lecture d'aujourd'hui, contrairement à la fois dernière où qu'on avait fait Confucius, c'est moi-même qui avais traduit les différentes choses. Là, j'ai pas osé m'aventurer sur le terrain taoïste, et donc j'ai préféré reprendre les traductions pour le Zhuangzu de, j'en fais remarquer à chaque fois, parfois de Bitter, parfois de Lévy, et pour le Tao Te Ching de Lérif. Donc, pour nous remettre un petit peu dans le bain, je vous propose, on va parler en premier de Lao Tzu et du Tao Te Ching. Je vais vous remontrer les images que j'ai sélectionnées. Et vous rappelez, la dernière fois, il y en a une qui n'arrivait pas à passer, parce qu'on ne voyait rien. Et cette fois-ci, mon fils l'a retouché pendant longtemps et on voit un peu mieux. Donc, la première, pour nous mettre dans l'ambiance, c'est cette représentation de Lao Tzu, donc personnage peut-être imaginaire, non, enfin personnage sur lequel on ne sait rien, qu'on représente volontiers sur une sorte de buffle qui s'appelle un yak. Et ça aussi, c'est pour montrer, entre autres, le côté non conventionnel du personnage. Vous rappelez que je vous avais dit que quand on avait étudié Confucius, que Confucius refusait de se déplacer autrement, quand il se rendait d'un endroit à l'autre à ses disciples, que sur une espèce de char, à l'époque on était debout, un peu comme les chars romains, parce qu'il pensait qu'un érudit, il y a des choses qui doivent manifester son statut d'érudit. Là, à l'inverse, avec les représentations iconographiques que l'on comme ça du taoïsme, on est complètement dans un autre domaine parce que c'est grotesque de se déplacer à d'autres buffles. Vous voyez, le seul qui se déplace dans la réalité à d'autres buffles, c'est par exemple l'enfant qui emmène les bêtes paîtres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, aucunement dans la tradition chinoise de l'époque et dans ce code de l'étiquette très stricte qui existait, on ne prétendrait qu'un sage doit se déplacer sur un buffle. Mais, néanmoins, donc c'est comme ça qu'est représenté Lao Tzu pour montrer le côté complètement non conventionnel, non protocolaire du personnage. Aussi, une autre chose, souvent, dans les représentations, le personnage est représenté, c'est un homme âgé, ce qui correspond d'ailleurs bien au caractère Lao qui veut dire vieux. Je vais essayer de le rendre peut-être un petit peu plus net. Et mais en même temps, c'est un personnage qui a toujours des caractéristiques enfantines ou même des caractéristiques du nourrisson. C'est parce que justement, c'est l'une des choses que dit le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, c'est-à-dire que ce qui est mou, ce qui est faible, survit, et ce qui est dur et ce qui est cassant, casse. Et donc on représente toujours, même Lao Tzu demande à avoir l'intelligence des enfants ou l'intelligence des bêtes, et non pas l'intelligence des hommes. Donc on le représente, ça fait également partie de ce côté non seulement non conventionnel du personnage vis-à-vis de l'étiquette chinoise, mais non conventionnel vis-à-vis de l'idée que l'on se fait du cheminement, du progrès de la pensée. Et donc Lao Tzu est souvent représenté sur son buffle, c'est l'une des représentations les plus fréquentes, ou souvent également, comme on va le voir sur des statues de grande dimension qui ont été prises, des photos qui ont été prises dans des temples, dans une position un peu de nourrisson, qui n'arrive pas, souvent qui n'est pas vraiment assis, qui se tient un peu comme ça. Alors voilà l'une de ces statues de grande dimension, qui est dans un temple taoïste en Chine. Et alors évidemment c'est une représentation qui est complètement imaginaire, Je crois que c'est déjà assez ancien, ça, comme statue. C'est souvent, comme je l'ai dit la fois dernière, ces statues de grande dimension sont souvent faites sur place, hein, sur des rochers qui sont déjà là, dans une colline. Et en fait, on sculpte la colline. Le personnage a volontiers une allure relativement caricaturale ou grotesque. Hein, vous voyez, on est tout à fait dans une autre représentation que, je sais pas, la représentation chrétienne ou quelque chose comme ça, qui doit normalement donner une sorte de canon de la beauté. Là, c'est absolument pas le cas. On représente le personnage. Et alors justement, il y a dans ses traits toujours, ou dans sa position, quelque chose qui est un peu à la fois du vieillard et de l'enfant. Je crois qu'après, c'en est une autre. Voilà, celle-ci est d'ailleurs plus imposante encore, du même ordre, qui est dans un autre temple, et où donc là, on le voit comme ça, avec ce regard très, très vite, très perdu, qui rappelle un peu l'une des scènes qu'il y a justement dans le Zhuangzi, où Confucius va le voir, je ne sais pas la dernière, où il est en train de se sécher les cheveux au soleil, et Confucius, en le voyant, se rend compte que c'est un homme qui est comme un homme mort, il n'y a pas d'expression. Il y a une sorte de vide total dans cet homme-là. C'est un peu ce que donne cette statue. Alors voilà la bande dessinée. Là, je pense que maintenant, c'est bon, c'est peut-être pas extrêmement net. Je peux peut-être améliorer les choses, mais on voit mieux. Non ? Ah, peut-être comme ça. Voilà. Je crois qu'on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Et alors ça raconte l'histoire mythique de la manière dont le Tao Te Ching aurait été écrit, c'est-à-dire que Lao Tzu aurait été un archiviste qui aurait abandonné les fonctions de fonctionnaire, hein, qui était laissé en tant qu'archiviste, et qui serait parti droit devant lui. À un moment donné, il serait arrivé aux frontières de l'Empire, et là il serait tombé sur un officier, qui était le garde frontière, et qui lui dit, donc c'est là où nous sommes, il dit, à cela, on passe pas. Et donc là, on le voit pareil, il arrive, alors là, ils ont pensé, mais c'est un très caractère, enfin bon, l'image n'est pas très nette, mais on l'a mis, il est tout petit sur un bûche énorme, là, cette fois-ci. Et donc, avec un gros nez et une moustache. Et puis même son bûche, je trouve qu'il est très très bien là. Et donc, l'autre, il lui dit, là, l'officier, il dit, on passe pas. Et donc, là, au-dessous, il est un petit peu. Il hésite un peu, et puis il dit à l'officier, ben, je vous écrase quelque chose et vous me laisserez passer. Alors là, vous voyez, c'est bien parce que le buffle concourt également à l'affaire, il sert de bureau, là, le buffle, ça lui permet de se reposer un peu. Et donc, l'autre, il est content, l'officier, on lui donne le Tao Te Ching, bon, excusez du peu, hein. Et donc, on voit Lao Tzu qui se rêve à une sorte de paysage qui fait penser à un paysage un peu lunaire, là, avec des montagnes, avec des anneaux autour. Et derrière, il est le livre de la foi et le livre de la vertu, derrière lui. Et donc, ils vont servir pour l'officier. Alors, vous voyez, au même titre que bon, c'est un peu des choses pour enfants, mais bon, c'est amusant. Mais dans ces courants de pensée chinois, dans ces religions chinoises, parce que le taoïsme est une religion, au même titre que le confucianisme, je vous ai montré aussi des fois différentes caricatures de Confucius, quand on avait fait ça. On n'hésite pas à représenter ces personnages sous une forme caricaturale. Mais sans m'écharter non plus, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas des surhommes, c'est pas des, je sais pas quoi, c'est pas des canons de la beauté, c'est pas Miss Monde. Et donc, au contraire, en montrant parfois même un peu leur travers et tout, on perçoit peut-être mieux leur humanité. Donc voilà pour nos illustrations. Et donc ce livre. Ce livre, hein, qu'aurait laissé, moi je ne crois pas que ça se soit passé comme ça du tout, hein, mais ce livre, comme ça, là, ils le mettent en plus en deux tomes, qu'aurait laissé Lao Tzu au garde-frontière, serait le livre de la voie et de la vertu, que l'on va étudier un petit peu aujourd'hui, avec également des morceaux du Zhuangzi, et le fait d'étudier ça, je pense qu'on va mieux voir un peu la philosophie globale qui se dégage de ces œuvres-là, d'une manière peut-être plus fine et plus précise que la fois dernière. Donc je commence par la page 4, choix de texte, hein, et donc je commence par le premier extrait, Et je commenterai un peu, et on peut tout à fait en parler entre nous. Quand chacun tient le beau pour beau, vient la laideur. Quand chacun tient le bon pour bon, viennent les maux. Le sage, tout le monde est là? Donc c'est à page 4, l'extrait, le premier extrait qui est le deuxième chapitre en fait du Tao Te Ching. Quand chacun tient le beau pour beau, vient la laideur. Quand chacun tient le bon pour bon, viennent les maux. Le sage gouverne par le non-faire. Il enseigne par le non-dire, mais il nourrit chacun sans se l'approprier. Il accomplit sa tâche sans s'en prévaloir. Il achève son œuvre sans s'y attacher. Et comme il ne s'y attache pas, il se maintient. Donc, texte superbe. Je pense que vous voyez déjà, on verra peut-être mieux aussi dans l'extrait qui viendra après, la qualité de du texte, la qualité de cette poésie et finalement un côté de dire les choses avec très peu de mots et en disant des choses qui semblent parfois comme des petits dictons ou des petits aphorismes. Derrière, il y a une profondeur qui ressort, qui est quelque chose de tout à fait important, et c'est toujours des choses qui vont très très loin, je pense, dès lors qu'on décide, c'est-à-dire que c'est des textes qu'on peut bûcher, qu'on peut approfondir si on veut, parce que il y a quelque chose en retiré qui est tout à fait étonnant. Alors, les deux premiers vers, donc là, on voit bien aussi à peu près la forme relativement régulière de cette poésie antique. Quand chacun tient le beau pour beau, vient la laideur. Quand chacun tient le bon pour bon, viennent les maux. Alors, l'idée qu'il y a là-dedans, c'est que, en fait, dans ce courant d'idées, il n'y a pas de notion de la laideur ou de la beauté. Il y a un tout qui existe, qui est le monde. Le monde comprend et des choses qui me semblent belles et des choses qui me semblent laides. D'accord. Mais lorsque tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des critères, mettons, de beauté, ou après on va le voir, de bonté qui existent, alors le fait que nous soyons d'accord là-dessus crée de la laideur. La laideur n'existe pas en elle-même, pas plus que la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dès lors qu'il y a un accord, c'est cet accord qui crée la laideur. Oui, c'est complètement paradoxal. Oui, bon, ça c'est chacun verra. C'est le texte avec lequel on peut être d'accord, pas d'accord, d'accord à une certaine époque de sa vie, pas d'accord à une autre époque de sa vie. Hein, c'est les... mais bon, à voir. Mais il y a quand même l'idée qu'il y a quand même une sorte d'opinion commune qui se crée et qui, en se créant, crée son contraire.
Il dévalue, en fait, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme bon. Si tout le monde est d'accord, c'est inquiétant, quoi.
Oui. Pareil après, lorsque tout le monde décide de ce qui est... Alors, quand il dit bon ici, c'est le sens de bon, de bien, hein, c'est ce qui est bien moralement. Lorsque nous décidons tous ensemble de ce qui est bien moralement, nous créons des choses qui seront, elles, déviantes vis-à-vis de ce bien. C'est-à-dire que, théoriquement, le fait de décider ce qui est bien, c'est la politique du taoïsme, du non-agir ou de la non-intention. C'est-à-dire que dès le moment où je veux définir un code moral, et donc je vais définir qu'un certain nombre de choses sont bien, que d'autres, pas, vu que c'est le contraire, donc elles sont mal, eh bien, en faisant cela, je crée le mal. Comment ?
Ça se comprend bien.
Oui. C'est une manière de voir les choses. Alors, et là, c'est là où on va voir, c'est-à-dire que donc, alors, si je ne peux pas définir cela qui est beau, si je ne peux pas définir ce qui est bien, qu'est-ce que je fais ? Je peux rien définir, vous voyez ce que je veux dire ? Eh ben non, le sage gouverne par le non-faire. Il enseigne par le non-dire. Alors, cette affaire, j'en avais un tout petit peu parlé la fois dernière. Ils traduisent ici par le non-faire, que vous verrez aussi dans beaucoup d'autres traductions, par le non-agir. Mmh. C'est le Wu Wei. J'avais déjà écrit la fois dernière. 3, 4. Wu.
Wei.
Alors, les deux caractères, donc ça signifie c'est l'absence, le néant. Et ça, c'est, on peut dire que c'est le verbe faire, agir. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que le premier caractère, c'est l'absence ou le néant. Ce n'est pas ne pas. Parce que ne pas, en chinois, c'est un caractère très doux, puis un caractère très simple qui s'écrit comme ça. Si on disait Wu Wei, à part de Wu Wei, c'est assez proche, on serait effectivement assez proche de la traduction française de non-agir. Bon, c'est un peu une subtilité. Là, c'est plutôt l'absence. Mais l'absence de quoi? Moi, je ne sais pas si le... Ici, ils traduisent comment? Ils disent le non-faire. Ça me semble peut-être déjà mieux comme traduction que le non-agir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Si le taoïsme, c'est effectivement, et ça c'est vrai, donc c'est la pratique du Wu-Wei, je pense pas que ce soit la pratique du non-agir, je pense pas que ce soit des gens qui ne fassent rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui reste couché toute la journée. Je pense que c'est plutôt, pour le dire en français, la non-intention. Parce que des actes, on en commet tout le temps, même le fait de respirer, c'est un acte. Le fait de continuer à vivre, c'est un acte. Si je décide d'arrêter de vivre, c'est aussi un acte. Mais là, c'est plutôt le fait, dans ce courant de pensée, de la non-intention que de la non-action.
La vacuité du non-engagement,
je ne sais pas. J'y reviendrai. La vacuité, c'est encore un autre. Qu'est-ce que c'est que cette non-intention, ou cette absence d'intention? Oui, c'est l'absence, cette absence d'intention.
C'est quand même un acte dans la mesure où on cultive ce sentiment de vacuité.
La vacuité, j'y reviendrai peut-être davantage quand on fera le bouddhisme, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas exactement du domaine du taoïsme. Mais pour dire ça, il y a au début du Zhuangzi, il y a un passage qui est très célèbre, dans lequel on parle d'un boucher, enfin de quelqu'un qui découpe les bœufs en l'occurrence, je ne sais pas si c'est le buffle sur lequel l'autre était monté, et donc cette personne fait ça avec non seulement dextérité, mais avec une certaine joie, je ne sais plus exactement, mais on entend qu'il pousse des cris en même temps qu'il fait ça. Et c'est quelque chose, hein, je veux dire, hein, moi je n'ai jamais essayé, mais un buffle c'est quand même une grande bête, hein, une carcasse de buffle comme ça, puis le gars il y va comme ça, et il l'empoigne, il le bascule de tous les côtés, puis il tranche là-dedans à toute allure, et voilà. Et donc, il y a une personne qui voit ça et qui lui pose des questions et qui dit, c'est vraiment remarquable ce que vous arrivez à faire. Et l'autre il dit, ouais. Oui, et il dit, en fait, il y a eu trois stades qui m'ont conduit à faire ça. Il dit, au début, quand j'ai commencé mon métier, parce qu'il faut le découper le bœuf, hein, il dit, je voyais l'animal devant moi. Il dit, au bout d'un certain temps où je me suis exercé, je ne voyais plus l'animal, parfois, je voyais une articulation, quand mon couteau arrivait à une articulation. Et il dit, et maintenant, quand je fais ça, je ne vois plus rien. Le truc se fait. Et donc, c'est pour ça que ça me semble difficile de traduire par la non-action. Parce que ce boucher, il dévite la bête, il est actif. Il est même plus actif qu'un boucher normal, qu'un boucher non-taoïste. Et donc, c'est plutôt l'absence d'intention. Au début, il avait l'intention, c'est-à-dire qu'il voyait le bœuf qui est en face de lui comme étant quelque chose qui est séparé de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce bœuf n'était pas lui-même, et donc c'était un truc extérieur, il fallait qu'il en fasse quelque chose. Ensuite, au bout d'un certain temps, c'est juste aux endroits difficiles, quand le couteau arrive sur l'articulation, que donc là d'un coup il se réveillait, et puis il disait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et à la fin, il débite la bête en rumsteak immédiatement. Et Donc c'est pour ça que c'est plus une non-intention, une absence d'intention. Au début, quand il a le bœuf en face de lui, il dit... Mais je pense que c'est des exemples qui existent dans notre vie aussi quotidienne. Je veux dire, quelqu'un qui fait des gammes de piano pendant 10 ans, il y a un moment donné, beaucoup de grands pianistes travaillent en regardant la télé. Hein. Alors bon, je ne sais pas si c'est du même ordre que le boucher du taoïsme. Et donc ce boucher dit, justement, maintenant il dit « je possède le Tao ». Il dit à un très très bon boucher, alors je ne me plus les, comment dirais-je, les durées de temps, mais un couteau, mettons, fait un mois ou un an, par exemple. Un boucher médiocre, il faut qu'il change, parce qu'à force d'user le couteau sur les articulations, sur les os, sur tout ça, il faut qu'il change le couteau tous les jours, mettons, ou toutes les semaines. Et il dit, moi j'ai le même couteau depuis 18 ans, ou quelque chose comme ça, et il dit. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'est plus séparé du bœuf, le couteau n'est plus séparé du bœuf. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait, et donc il explique bien, je ne reprends plus le texte, mais comment le couteau passe dans l'animal, passe dans les articulations. Et donc ça c'est vraiment le Tao, c'est-à-dire la voie. C'est-à-dire qu'il y a un chemin pour le couteau dans le bœuf, et il y a un chemin pour l'homme qui doit débiter un bœuf. Et ce chemin est forcément en relation avec la structure du bœuf, avec la force de l'homme, avec tout à la fois finalement. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est difficile d'appeler ça de la non-action, ou du non-faire, ou du non-agir. C'est plutôt le fait qu'à un moment donné, l'intention disparaît, et elle est remplacée par une sorte d'instinct extrêmement fécond, extrêmement adroit, vous voyez ce que je veux dire ? Oui.
Oui. L'automatisme qui crée
oui.
La distance.
Oui.
À partir du moment où on a les automatismes, on n'a plus de force.
Oui, oui, oui. C'est une forme d'automatisme, mais c'est pas que cela.
Ah oui.
Mais je pense qu'effectivement, il y a de ça largement. Vous comprenez, c'est le fait de ne plus avoir... Nous, on dit que c'est automatique parce qu'on voit une action extérieure, mais c'est le fait de ne plus avoir à réfléchir dans l'action.
Et une intégration.
Oui, et amener le truc se fait tout seul. Et ça, c'est l'un des grands coups de ce à quoi veut tendre le taoïsme, c'est-à-dire que les choses se fassent toutes seules. Et pour eux, l'exemple pire, c'est la contrainte, parce que lorsque je contrains autrui ou lorsque je contrains les choses, ça ne se fait vraiment pas tout seul. C'est que je suis obligé d'exercer une force pour que ça plie dans le sens où je voulais. Alors ce qu'il veut, c'est pas non plus le tout-pouvoir, c'est pas que les choses se fassent comme par télékinésie, je veux quelque chose et tout se passe comme ça. C'est vraiment sortir l'intention, c'est ne plus vouloir, justement. Le truc se fait, ce qu'il veut faire se fera. Et c'est pour ça qu'il compare souvent, justement, au ciel, à la course des étoiles, des planètes, etc. dans le ciel, c'est-à-dire que le truc se fait. Et donc on va voir par la suite, donc le sage gouverne par le non-faire. Donc en fait, ce qu'il est introduit par le non-faire ici, c'est le wu-wei. Il enseigne par le non-dire. Ça, c'est aussi, je pense, d'une certaine manière, une forme de critique, sans doute, à l'égard des Confucéens et des différents sages de l'époque de cette époque-là. Il y avait quand même plusieurs écoles de philosophie qui existaient en Chine, et notamment beaucoup d'écoles qui étaient quand même relativement rhétoriques, en quelque sorte. Et donc, souvent, il y a cette idée dans le taoïsme que ce qui peut se transmettre, qui est vraiment important, peut se passer de parole. Donc le sage gouverne par le non-faire, il enseigne par le non-dire, mais il nourrit chacun sans se l'approprier. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, c'est que le sage doit donner à tous quelque chose, mais le but n'est surtout pas de s'approprier ni les personnes, ni les événements, ni les choses, ni quoi que ce soit. Il y a chez eux un refus de d'une action qu'on pourrait dire volontaire, qui vise à quelque chose, parce que pour eux, ce genre de choses ne font qu'accroître le désordre. Il y a même, je ne me rappelle plus exactement, mais un passage du Tao Te Ching où il dit « le problème, c'est qu'il y a tellement de gens de bonne volonté ». Il dit donc il y a tout le désordre qu'on voit sur Terre. Il dit, au moins avec les brigands, c'est des gens avec qui on peut s'entendre. Mais le problème, c'est les gens de bonne volonté. Parce que pour faire ce qu'ils estiment bien, ils sont prêts à casser beaucoup d'œufs pour faire l'omelette. Enfin, il ne le dit pas exactement sous cette forme-là, mais le sens, c'est celui-là. Il dit, le gars qui est possédé vraiment d'une idée morale de ce qu'est le bien et tout, à lui, on ne pourra pas lui faire entendre raison. Et pour peu que cette idée ne soit pas dans l'acte des choses, dans le Tao des choses, alors il pourra faire de grands, pour le bien, entre guillemets, il pourra faire vraiment de grands désastres.
Oui,
oui, oui. Alors que le brave brigand, quelque part, pour eux, c'est quand même quelqu'un avec qui on peut discuter au bout du compte. Parce qu'au moins le brigand, théoriquement, n'est pas ennemi de ses propres intérêts. Donc, il accomplit sa tâche sans s'en prévaloir. Donc, on voit le côté humble. Et il achève son œuvre sans s'y attacher. C'est-à-dire que l'œuvre qu'il effectue... Bonjour. L'œuvre qu'il effectue, non seulement il n'en est pas fier, mais une fois qu'elle est faite, elle est faite. Quoi. C'est comme le gars qui débite les bœufs, là, le boucher. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et, alors là, la fin est très très intéressante, et comme il ne s'y attache pas, il se maintient. Alors dans le taoïsme, il y a toujours cette idée qu'il faut maintenir l'énergie, ou le souffle, c'est le même mot, enfin en fait le mot originel c'est le souffle, c'est le chi, qui est en soi. Le maintenir et le nourrir, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais cette énergie ne peut pas se nourrir par les nourritures, je dirais, normales. Et donc, le sage, pour nourrir l'énergie qui est en lui, doit avoir un comportement spécifique, une absence d'intention, et également une... souvent, après cette époque-là, le taoïsme a beaucoup évolué comme étant une recherche de la longévité, de l'immortalité, ce qui est encore mieux que la longévité. Et donc, les sages taoïstes étaient des gens qui étaient réputés vivre très longtemps. Alors, souvent, on ne sait pas exactement combien de temps ils vivaient, parce que vu que c'était des gens qui se séparaient des hommes, qui allaient dans des montagnes, et il y en a pas mal en Chine, complètement désertes, donc quand ils mouraient ou quoi que ce soit, ben, personne n'était au courant. Et ces personnes se nourrissaient d'aliments spécifiques. Par exemple, les taoïstes ne mangent pas du tout de céréales, quelles qu'elles soient, alors que le blé et le riz étaient la base, enfin le riz dans le sud et le blé dans le nord, sont la base encore aujourd'hui, à plus forte raison à l'époque, de l'alimentation des Chinois. Donc ils se nourrissent de peu de choses. L'idéal pour un sage taoïste, c'est d'être à une certaine hauteur de façon à pouvoir se nourrir des nuages qui passent. Également le pin, qui est un symbole de la longévité, le pin péien, hein, l'arbre, hein, pas du pin, est une bonne nourriture, des aiguilles de pin, choses comme ça pour les sages taoïstes. Et ça c'est des pratiques qui ont été reprises aussi d'une certaine manière dans le bouddhisme, où on a eu uniquement chinois, enfin chinois puis japonais, où on a eu différentes façons de, je sais pas comment on dit en français, de s'auto-momifier, c'est une manière de suicide, hein, mais naturellement en quelque sorte. Et donc, vu que dans le pain il y a de la résine, il y a des choses comme ça, ça permettait d'endurcir le corps. Bon, à la fin on termine quand même dans un état avancé, mais ça reste en place, hein, et on se maintient. Donc c'est un premier extrait. Je vais passer parce qu'on a quelques-uns à voir. Bon, c'est un petit peu lumière de survoler. Sur un deuxième extrait, qui est le sixième chapitre du Tao Te Ching. Et là, je trouve que la traduction en question est très belle, parce que elle restitue à la fois l'aspect mystérieux et difficile à comprendre du texte, et en même temps la beauté du texte. Alors je dirais, il faut vraiment le lire comme étant de la poésie. Je le lis. L'esprit du Val ne meurt point, c'est le mystérieux féminin. Lui, du mystérieux féminin, est racine de ciel et terre, traînant comme un filandre à peine s'il existe, mais l'on y puisera sans jamais qu'il s'épuise. C'est un texte admirable, hein. Et c'est pas forcément facile à comprendre, j'essaie quand même de vous donner quelques clés d'interprétation. Alors, l'esprit du Val, tout d'abord, dans la plupart des commentaires que j'ai vus, on pense que l'esprit du Val, en fait, ça représente le Tao, c'est-à-dire la voix. Pourquoi ? Parce que, en fait, Le propre du valet, c'est d'être vide, c'est-à-dire d'être juste une déclivité. Vous voyez, donc vous avez la vallée entre deux montagnes, donc c'est juste un creux en fait. Et donc la seule qualité de cette chose, alors c'est vraiment une chose d'avoir une qualité par elle-même, mais là c'est plutôt la seule qualité, c'est son absence de plein, vu que c'est un creux. Et donc, à plus forte raison, l'esprit, finalement, c'est ce qui est au-dessus, c'est ce qui émane du Val, là c'est plus que creux, quoi, parce que, c'est vraiment ce qui flotte au-dessus de la vallée. Et donc ça représenterait bien le Tao. C'est-à-dire que dans le Tailleur la voix, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que quelque chose a de la qualité, non pas pour ses qualités propres, mais plutôt pour son absence de qualité, pour son inutilité. Et pourquoi, alors que les montagnes c'est bien, c'est haut, c'est grand, c'est plein, vous voyez, c'est du dur, c'est du solide, mais la vallée c'est bien. Vous vous rappelez aussi l'affaire qu'on avait vue avec le yin et le yang, et le fait qu'il y avait entre deux, vous savez qu'il y a un cours d'eau qui passe entre deux montagnes, etc. Et donc l'esprit du Val ici, ça, je pense que ça représente effectivement le Tao, la voie.
Ça ne sera pas le yin.
Non, parce que le yin, c'est l'un des versants, sombre de la montagne. Donc c'est quand même le...
C'est quand même le féminin.
Alors le yin, c'est le féminin, oui, là c'est le yin, tout à fait.
Ah oui, mais il dit que c'est l'équivalent.
Oui, oui, mais on comprend. Oui.
Ça, je comprends.
On va aller, oui, mais vous allez voir. Parce que même le Tao, je veux dire, on dit un coup de yin, un coup de yang, ainsi procède le Tao. Donc le yin, par exemple, en tant que tel, n'est pas absent, si vous voulez dire. Oui. Comment dirais-je? Donc ici, on a cet esprit de la vallée. Donc il y a toujours l'idée que les choses ont plus de qualité, non pas pour les qualités intentionnelles que nous leur prêtons, mais pour les qualités, pour l'absence de qualité pour nous qu'elles ont. Par exemple, il y a un passage du Zhuangzi où je ne sais plus quel personnage remarque un arbre de taille immense avec plein de ramures, etc. et tout ça. Et donc il s'en approche et en le voyant, il se rend compte que son écorce, l'écorce de l'arbre, est impropre à tout usage. Que le fait qu'il soit comme de traviole, on ne peut pas s'en servir pour déviter des planches ou quoi que ce soit. Enfin, le bois de l'arbre ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'il a pu survivre et devenir un arbre de grande dimension. Parce que si c'était un arbre qui avait pu servir à quoi que ce soit, eh ben, il ne serait plus là, il aurait déjà été coupé et on aurait déjà fait des choses. Donc, ce qui réussit le plus à l'arbre, ce n'est pas le fait que nous on dirait c'est un bel arbre, bien droit, on peut en faire des trucs, ben, on peut en faire dans les faits. Ce qui réussit le plus à l'arbre, c'est son utilité. C'est pour ça, comme dans le texte d'avant où ça se terminait, et ça se terminait, il disait, il se maintient. L'arbre a pu se maintenir parce qu'il est inutile. Et donc là, ce qui est creux, c'est pareil. Quelque chose qui est creux ne sert que de contenant, en quelque sorte. Alors que nous, on fait attention toujours au contenu. Alors, c'est le mystérieux féminin. Dans le texte chinois, il dit, c'est ce qui est appelé, hein, donc le mystérieux féminin, le caractère qui employait le caractère ancien, qui désignait peut-être plus, peut-être femelle que féminin. Bon, la distinction n'est pas, enfin elle existe, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que féminin est quand même quelque chose, quand on dit le mystérieux féminin, c'est quelque chose qu'on rattache, quand même, enfin moi quand je lis, pas tout le monde comme moi, mais à l'espèce humaine. Alors que, bon, mais le mystérieux femelle, ça ferait quand même un peu bizarre. L'huis, c'est-à-dire la porte du mystérieux féminin, est racine de ciel et terre. Donc là, chacun peut en déduire ce qu'il veut. Donc lui, c'est-à-dire la porte du mystérieux féminin, est racine de toute chose. Parce que donc dans cette représentation du monde, il y a ce qui est de domaine céleste, il y a ce qui est de domaine terrestre ou humain. Traînant comme un filandre. Alors, à propos de ça, aussi, comme par exemple, chez les ascètes taoïstes, ce qui n'est pas le cas chez la plupart des ascètes, il y avait énormément de pratiques sexuelles qui existaient. Et une bonne connaissance du corps de l'homme et du corps de la femme. C'est Louise du Mystérieux Féminin qui m'amène cette remarque. Traînant comme un filandre, à peine s'il existe. Alors, un filandre, vous voyez ce que c'est? C'est des... Ici, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je pense que ça existe aussi. C'est ces herbes ou des choses comme ça qui produisent au printemps ou je ne sais pas quand, des sortes de... je ne sais pas comment dire, un peu de poussière, des chevaux qui, comme ça, qui sont portés par le vent et puis qui parfois restent sur les... accrochés dans les plantes. Ouais. Alors que le... Oui, voilà, c'est ça, exactement ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'en Chine, bon, il y avait depuis l'Antiquité du coton, donc qui là, effectivement, produit cette espèce, quand il y a un peu de vent, à cette époque, on voit bien cette espèce de choses qui restent accrochées un peu. Donc, l'huile du mystérieux féminin est racine de ciel et terre, traînant comme un filandre à peine s'il existe. Donc là, on voit bien quelque chose qui est une existence très, très impalpable, très, très fantomatique. Hein. Mais, alors il y a, ça se termine souvent, le dernier vers est une sorte de chute en fait, hein. Mais l'on y puisera, donc pourtant cette chose qui est presque rien, on y puisera sans que jamais cela s'épuise. Donc je vous laisse méditer ce très beau texte. Je l'avais surtout mis en fait pour vous montrer aussi la qualité poétique de ce livre. Alors, le ciel dure, la terre persiste, qu'est-on qui les fait durer et persister? Ils ne vivent point pour eux-mêmes. Voilà ce qui les fait durer et persister. Le sage met son corps derrière, on le place devant. Il n'a pas de souci de son corps, par là même son corps se maintient. N'est-ce pas qu'il est sans moi propre? Par là même, son moi s'accomplit. Alors vous voyez cette idée toujours de se maintenir, de demeurer en vie. Mais ce n'est pas l'instinct vital hein, du tout. Hein. Souvent, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent les romans du Justi de Van Gulik. Ça c'est formidable. Hein, donc bon, ça se passe bien après l'époque, donc il y a une question ici. Les romans, ça je vous les conseille vivement, hein, c'est vraiment extraordinaire. Et bien ça arrive par exemple souvent dans les romans du Justi qu'à un moment donné, il y ait l'un des personnages qui soit, mettons, un peu perdu en montagne ou quelque chose comme ça, et donc d'un coup, paf, il déboule devant la cabane d'un sage taoïste, qui vit tout seul dans la montagne, ce qui est normal pour un sage taoïste. Et donc, cette personne est hors d'âge, en quelque sorte. Alors, il a plusieurs des caractéristiques des sages taoïstes, il a une peau très blanche, des pommettes un peu rouges, un regard très doux, etc. Et donc là, bon, il y a cette idée que la vie peut se maintenir et doit se maintenir dès lors qu'elle est convenablement vécue. Et que, en fait, par leurs actions, les hommes gâchent beaucoup leur vie en se livrant à des choses qui leur semblent héroïques quand elles sont dérisoires ou du même ordre. L'extrait suivant. L'homme du bien suprême est comme l'eau. L'eau bénéfique, bon là c'est juste, j'ai pris une toute petite portion d'un texte. Hein. L'eau bénéfique à tout n'est rivale de rien. Ça reprend un peu l'idée que l'on avait eue auparavant du sage qui bénéficie à tout le monde sans faire grand chose. Et donc c'est comme l'eau qui est tout à fait indispensable pour la vie. Elle bénéficie à tout le monde, mais elle n'est la rivale de rien. Dès lors que l'homme se met dans des positions où il entre en rivalité avec d'autres hommes, au bout du compte, il ne se bénéficie pas lui-même. Je ne sais pas s'il bénéficie aux autres ou s'il leur nuit, mais il se met dans des positions où il ne bénéficie pas lui-même. Oui, c'est une philosophie qui est très très difficile hein, d'application et de... Parce que souvent, on lit ces choses-là et on peut être d'accord avec elles, mais à moins que de vivre presque en ermite, c'est très difficile. Pour ça que beaucoup de sages taoïstes, comme tout à l'heure qu'on voyait Lao Tzu sur son buffle, sont des gens qui ont quitté la société des hommes. Parce que tout ça est quand même assez difficile à mettre en pratique. Et le dernier extrait, alors je pense que... Ah non, il y en a encore un autre après, du Tao Te Ching, avant qu'on aborde le Chuang Tzu. Celui-là, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé assez drôle. Lorsqu'un homme élevé entend la voix, il l'embrasse avec zèle. Lorsqu'un homme moyen entend la voix, il en prend et en laisse. Lorsqu'un homme inférieur entend la voix, il éclate de rire. La voix, s'il ne riait pas, ne serait plus la voix. Ça, c'est vraiment admirable. Et en même temps, bon, on voit quand même une certaine bonhomie qu'il y a dans l'œil de ce genre de sage. Oui.
Le mal me fait penser à l'eau qui coule naturellement. Après, il y a l'homme de la suprême comme nous qui a parlé dans Dharma, de mémoire,
oui.
En rapport avec l'eau qui coule. Si
oui.
Là, est-ce qu'on peut faire un pont entre des pensées qui n'ont aucune coïncidence chronologique, mais est-ce que cette idée de Dharma ou des voix, ça peut avoir la même racine sur le rapport avec l'eau?
Oui, moi je dirais que peut-être plus que dans les termes qu'on avait vus justement l'an dernier, peut-être parce qu'en dernier on a fait toute une session qui était consacrée au bouddhisme, et l'un des termes qui serait à mon avis bien dans la veine taoïste, c'était le principe, c'est ce qu'on appelait le principe, donc il y a un terme qui est assez proche du dharma, qui est ri, et qui est dont l'origine du terme est le mot jade, la pierre dure. Et le principe, c'est qu'il y a un ordre des choses, au même titre que dans la pierre, il y a une structure. Et si je veux tailler la pierre, je ne peux pas arriver justement avec de l'intention. C'est-à-dire que si je n'ai pas vu à quoi ressemble la pierre, je ne peux pas arriver comme ça à dire « je vais en faire une statue de ceci ou cela ». Parce que si la forme de la pierre ne me permet pas, je ne pourrai arriver à rien. Et donc, il vaut mieux que je suive la structure qui est inscrite dans la pierre pour la tailler. Et non pas que j'arrive avec de l'intention. Et donc, c'est peut-être plus dans cette notion de principe. Parce que souvent, dans la manière dont Dharma est traduit en chinois, donc l'origine du caractère, c'est l'eau. Enfin, la clé du caractère, c'est l'eau. Mais là, c'est plus l'eau qui lave quelque part que l'eau qui coule. Mais c'est vrai que vous allez voir au fur et à mesure, parce que pour les personnes qui effectivement qui sont venues l'an dernier, il y a entre toutes ces pensées, ce sont beaucoup mutuellement influencées. Par exemple, ici, on dit lorsqu'un homme élevé entend la voix, lorsqu'un homme moyen entend la voix, lorsqu'un homme inférieur entend la voix. Dans le bouddhisme aussi, on va retrouver les hommes des trois racines. Les hommes d'une racine supérieure, les hommes d'une racine moyenne et les hommes d'une racine inférieure. Racine, c'est l'appréhension qu'ils ont de l'extérieur. Et donc, là aussi, on a cette idée. Ça fait chinois, c'est-à-dire qu'il y a des hommes élevés. Bon, c'est pas extraordinaire comme idée, hein, mais on peut séparer entre vraiment les hommes élevés, les hommes normaux et les hommes spécialement bas.
Il y a les caches.
Comment ?
Il y a resté les caches.
Oui, alors oui et non, parce que finalement, en Chine, il n'y a jamais eu le système des castes. Hein. C'est quelque chose qui était vraiment indien. Et si vous voulez, en Chine, c'est plutôt l'opposition campagne et ville qui a été fondamentale. Et où effectivement, les gens des campagnes avaient un statut moindre, vu que les activités importantes se regroupaient dans les villes. Et si vous voulez, par exemple, je fais des raccourcis un petit peu téméraires, mais le confucianisme représenterait davantage une sorte de, je sais pas comment vous dire, enfin, de doctrine des villes. Confucius était un homme de la ville, et tous ses disciples, les grands disciples, pareil. Et le taoïsme, une survivance déjà de la religion paysanne antique de la Chine, et de la part de certains fonctionnaires archivistes, un retour à la campagne, si on peut dire, en termes un peu modernes. Enfin, là, c'était non seulement des campagnes, mais c'était des déserts, quoi, donc enfin, des lieux où il n'y avait aucun être humain. La voix du ciel est celle qui vint sans batailler, qui répond sans parler, qui vient sans qu'on l'appelle, et qui œuvre sans se forcer. Entre ces larges mailles, le grand filet du ciel ne laisse rien glisser. Ça, c'est la fin du chapitre 73. Alors là, vous voyez, on commence à retrouver maintenant un petit peu des idées que l'on a déjà vues. La voie du ciel, donc c'est la voie des choses qui se passent, est celle qui vint, mais sans batailler, qui répond sans parler. Ça vous évoque tout à fait ce qu'on disait dans le premier extrait, le sage qui enseigne par le non-dire, qui vient sans qu'on l'appelle, on est toujours comme dans une pensée très, très paradoxale, et qui œuvre sans se forcer, comme le, vous vous rappelez, le boucher. Il ne force absolument pas, je veux dire, mais la chose se fait sans lui, on pourrait dire presque malgré lui. Il y a quand même toujours aussi une certaine défiance vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler le moi, comme dans un autre texte qu'on avait vu auparavant, où il parlait du sage, il disait, n'est-ce pas qu'il est sans moi propre, sans caractéristique propre, sans ego propre, par là même, son moi s'accomplit. C'est-à-dire c'est le fait qu'il n'est pas un moi spécifique, avec des qualités, des défauts, des goûts, des options, etc., qui fait qu'il y a quelque chose en lui qui s'accomplit. Et là, c'est un petit peu pareil qu'on dit, qui œuvre sans se forcer. Entre ces larges mailles, le grand filet du ciel ne laisse rien glisser. Alors, la notion de maille et de filet est une image que l'on retrouve beaucoup dans ce genre de texte, parce que pour eux, la réalité, comment dirais-je, est une sorte de maillage. C'est-à-dire que tout se tient. Au même titre que s'il y avait une sorte de filet qui recouvre tout, tout est dans le filet, il n'y a pas de problème. Et vous vous rappelez, quand je vous ai parlé la fois dernière de la religion paysanne, je dis bien que pour ces gens-là, tout se tenait. On ne pouvait pas parler des vivants sans parler des morts, on ne pouvait pas parler des hommes sans parler des femmes, des vieux sans parler des jeunes. Le cycle de la récolte était le même cycle que le cycle de la procréation humaine, c'était au même moment que se faisait l'ensemencement dans les deux cas. Forcément, s'il y a de nouveaux hommes qui doivent être créés, il faut qu'il y ait un rapport avec les morts, tout se tient. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans une espèce de... ça, c'est une pensée, par exemple, qui ici en Occident, à l'heure actuelle, n'existe pas. Cette notion d'interdépendance totale de toute chose. C'est-à-dire qu'il y a un grand maillage du monde. Et les hommes voient les choses séparées parce qu'ils ne voient pas les grandes mailles. Et alors les mailles sont d'autant plus grandes que c'est le ciel qui est en fait les mailles en question. Et donc le ciel pénètre toute chose. Donc j'espère un petit peu, que je regarde un peu l'heure en même temps, que par ces extraits, si vous voulez, je vous ai donné, bon, la plupart d'entre vous, je pense, connaissaient déjà ces textes, mais une certaine idée quand même de ce livre, c'est le livre qui est celui-ci, le livre de la voie et de la vertu, le Tao Te Ching. Et donc vous voyez, c'est des textes vraiment très très profonds, qui maintenant c'est des choses qui remontent à peu près à 2400-2500 ans, donc c'est des choses vraiment de l'antiquité humaine, avec un langage où on se rend compte qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Le sens n'apparaît pas immédiatement, il y a une sorte de profondeur qui reste, et on voit bien pourquoi ce genre de textes ont duré longtemps. Dans la pensée chinoise, quand même, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, alors nous, ce n'est pas quelque chose à quoi on penserait tout de suite, mais au moins quand l'empire chinois s'est constitué, c'est-à-dire à l'époque des Qing, c'est-à-dire à peu près deux siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque des Han, qui va jusqu'à deux siècles après Jésus-Christ, c'était pris quand même comme un manuel de gouvernance. Parce que le rôle que devait tenir l'empereur était un rôle où en fait il ne bougeait pas. Parce que je veux dire, il n'était pas un gestionnaire, il ne prenait pas de décision théoriquement au niveau de l'empire de ça. Il devait avoir un comportement qui faisait que les choses se fassent. Déjà, il y avait une sorte de contagion. Déjà dans le cercle des personnes, des conseillers, des généraux, etc., qui sont autour de lui. Et en fait, comme ça, ça devait gagner de proche en proche l'ensemble du peuple. Je pense certainement que ce genre de choses n'a probablement jamais existé, mais quand même, on s'est beaucoup servi du Tao Te Ching comme étant un livre de gouvernance. Et donc il y avait des conseillers qui pouvaient le dire à l'empereur, et donc il devait lui conseiller d'avoir une certaine conduite ou non conduite en fonction de ce genre de choses. Alors maintenant, avant qu'on termine, je voudrais aborder un autre livre. Alors ça c'est dommage, il y a l'appareil qui a arrêté de s'arrêter. Est-ce qu'il faut le relancer un coup? D'accord. Non, mais je ne vais pas l'éteindre. Bon. On va voir si en lisant ça, ça le... Bon, voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup éteint. Bon. Alors c'est pas une vraie réussite.
Il
est éteint. Ouais, je l'ai éteint, hein, plus ou moins. Ouais. Je sais pas, il clignote. Enfin bon, tant pis pour nous. Bon, je voulais vous montrer justement pour passer l'image avec le papillon. Ah ben voilà, il est reparti tout seul. Voilà, il fallait rien faire, voilà. Bon, c'est celle qui figure en bas ici, hein, dans un truc. Parce que Zhuangzi est souvent associé à l'image du papillon, parce que à la fin du deuxième chapitre de ce livre, donc du Zhuangzi, il y a le... Ah non, vous ne l'avez pas. Ah ben, je suis désolé, j'ose pas commencer à me battre avec l'appareil. Donc on voit le sage avec en train de dormir avec un papillon au-dessus de lui qui passe. Et Zhuangzi est souvent associé à Maître Zhuang, donc à l'image du papillon, parce qu'un beau jour, il s'est réveillé après avoir rêvé qu'il était un papillon. Et il avait l'esprit extrêmement troublé, parce qu'il s'est demandé si c'était lui, Zhuangzi, le sage chinois, qui a rêvé qu'il était un papillon, ou bien si c'est le contraire, c'est si le réel n'était pas le rêve, c'est-à-dire s'il n'y avait pas un papillon qui a rêvé qu'il était un sage chinois, et qu'actuellement il est en train de vivre le rêve d'un papillon. Donc, mais cette histoire, en fait, tient juste deux lignes du Zhuangzi, mais c'est celle qu'on répète tout le temps, et sur la plupart des images, vous trouvez, enfin bon, comme ça, le sage avec son papillon, en train de ronfler avec le papillon au-dessus. Et, mais en fait, je pense que c'est vraiment un arbre qui cache la forêt. Bon, par contre, effectivement, si vous êtes invité à un dîner en ville, ou quoi que ce soit, si quelqu'un, mais c'est rare quand même dans les dîners en ville, parle de Zhuangzi, il faut s'exclamer à ce moment-là, « Ah oui, le papillon !» Et tout le monde verra que l'on est un fin connaisseur. Pour ma part, je pense que c'est vrai, c'est effectivement un arbre qui cache la forêt, parce que c'est quelque chose qui arrive à la fin du deuxième chapitre du Zhuangzi, qui est des chapitres peut-être les plus intéressants et les plus complexes, d'ailleurs dont j'ai pris ici un extrait. Et de la manière dont ce livre est écrit, qui est souvent très profond, immédiatement après on passe à quelque chose d'un petit peu drôlatique, ou... quelque chose comme ça, où on fait intervenir des personnages un peu grotesques, et puis d'un coup, il y en a un qui va dire quelque chose d'une profondeur extraordinaire. Il y a toujours un petit peu comme, par exemple, chez nous, dans la musique classique, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas laisser l'auditeur à la fin sur une impression trop forte, trop puissante, ou dans un trop grand état de concentration ou d'égarement. Et donc, souvent, ça arrive qu'à la fin du chapitre, hop, on lui envoie une bonne histoire. Et comme ça, les personnes en sortent en meilleur état. Et je pense qu'avec le coup du papillon, bon, l'histoire est intéressante, hein, mais vis-à-vis de l'ensemble du Zhuangzi, parce que vu que c'est celle qu'on cite à chaque fois, c'est un peu ce rôle d'une bonne histoire, à mon avis, qui est faite pour enlever la fin du chapitre, parce qu'elle tient qu'en deux lignes. Et le deuxième chapitre, parce que je fais juste une aparté. En fait, si vous voulez, maintenant, dans les éditions actuelles, en Chine comme ici, on distingue ce qu'on appelle les chapitres internes dans le Zhuangzi. Ils sont 7. Les chapitres, je ne sais pas comment on dit, je pense externes ou quelque chose comme ça. Les chapitres internes sont ceux dont on pense qu'ils sont vraiment authentiques. Et donc, c'est les 7 premiers. Et ils sont vraiment d'une profondeur extraordinaire. Et les autres, on pense qu'ils sont peut-être authentiques, peut-être qu'il y a des commentaires qui s'y sont mêlés, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont également écrit là-dedans, etc. Mais donc, le deuxième chapitre est reconnu comme étant l'un des chapitres les plus intéressants et les plus difficiles. Et justement, je vais vous en citer un exemple. Alors vous allez voir, là on quitte complètement le domaine du Tao Te Ching et d'une certaine forme de poésie pour entrer vraiment dans une philosophie très profonde, à mon avis très moderne souvent. parce que vraiment, le passage que je vais vous lire là, je ne vous dirai pas que ça vient de l'Antiquité chinoise, et je vous demanderai de mettre un nom dessus, je pense que vous sortiriez des noms de grands philosophes du XXe siècle. La preuve, je vais le lire. Et vous allez voir, bon, après je le commenterai un petit peu, mais c'est un texte où il faut quand même pas mal s'accrocher. À partir du moment où j'instaure le 1, en ai-je déjà parlé, mais une fois que j'ai dit le 1 est, puis-je dire encore que je n'en ai pas parlé, le 1 non nommé et le 1 qui est nommé forment deux éléments dédoublés. Cet 1 qui sans être nommé et cette parole qui nomme le 1 non encore nommé forment un ensemble à deux éléments. Ces deux derniers ajoutés au premier forment donc trois unités. Et à partir de là, même le plus habile calculateur ne pourra venir au bout du compte. Que dire des gens ordinaires ? Ainsi, quand on pense que pour aller du non-être à l'être, on est déjà arrivé à compter jusqu'à 3, que dire lorsqu'on va de l'être à l'être ? Le mieux est de s'en abstenir et de laisser faire la nature des nombres en suspendant son action. Bon, c'est un texte qui est difficile et je vais essayer de l'expliciter un petit peu. Mais voyez, je dirais, un tel texte, à mon avis, si on ne vous disait pas d'où ça vient, je pense qu'il y a très peu de gens qui penseraient que c'est un texte de la sagesse antique. Parce que là, on est au niveau de la formation du langage, au niveau de la formation, je peux vous dire, des nombres, de l'arithmétique. Et la fin est pratiquement heideggerienne, hein, du passage de l'être, du non-être à l'être, et que dire qu'on va de l'être à l'être. Alors, pour comprendre ce texte, moi j'ai bien compris justement en lisant l'une des analyses de Lévy, de Jean Lévy, et il fait l'analyse suivante. Hein, que l'on peut bien comprendre ce texte par la théorie des ensembles. Alors, si je dis d'énormes bêtises, il ne faut pas hésiter, s'il y a des mathématiciens parmi vous, à me reprendre, parce que je ne suis pas du tout mathématicien de formation. Mais, à partir du moment où j'instaure le 1, donc qui va instaurer le chiffre 1, mais en même temps, ce n'est pas encore fait, on est toujours dans ce temps qui précède l'action. Il aurait dit, en ai-je déjà parlé ? Oui, c'est très étonnant. Mais, bon, je ne sais pas si ce que j'ai dit, je l'ai dit, d'accord ? Mais, une fois que j'ai dit le 1 est, puis-je encore dire que je n'en ai pas parlé ? Mais c'est vraiment très étonnant. Donc, pour comprendre ça, pour l'instant, il faut dire qu'il n'y a rien. On va peut-être imaginer qu'il y a un truc qui s'appellera des chiffres. Il n'y a pas encore de chiffres, hein, d'accord ? On va faire un truc qui s'appellera peut-être les chiffres. Et je dis, pour l'instant, on va faire. Il y a un ensemble. Donc ça, c'est un ensemble. Mais c'est un ensemble, il est juste comme ça. C'est-à-dire qu'il peut tout recueillir. C'est un ensemble qui est vide, comme la vallée dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on a juste un ensemble vide. Un ensemble vide, c'est rien. Mais, je vais me créer un ensemble vide. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais, une fois que je l'ai créé, je ne peux pas dire que je n'en ai pas parlé non plus. Ben donc, il est là. Voilà. Il y a mon ensemble vide qui existe. Il est pour l'instant, il n'y a rien de réel, il est juste nommé. Et le 1 non nommé et le 1 qui est nommé forment deux éléments dédoublés. C'est-à-dire, je peux dire qu'il y a un autre ensemble qui est tout aussi vide, hein, qui comprend mon ensemble vide. Et le fait que j'ai nommé le 1, vis-à-vis de quand je ne l'avais pas nommé, ça forme déjà deux éléments. C'est un qui semble être nommé, et cette parole, donc il y a le 1 qui n'est pas nommé, il y a la parole qui nomme le 1, et dit, non encore nommé, hein, forme un ensemble à deux éléments. C'est-à-dire que le deuxième ensemble auquel j'arrive comprend lui-même, qui est vide, et comprend l'ensemble vide. Ces deux derniers ajoutés au premier, alors là, donc, au plus en mieux, donc je fais de plus en plus de ronds concentriques, hein, forment donc trois unités. Et à partir de là, même le plus habile des calculateurs ne pourra venir au bout du compte. C'est-à-dire que le truc est parti pour l'infini, là. Je suis parti d'un truc qui était peut-être humain, mais je ne savais même pas si je viens parler, mais si ça existait, ça n'existait pas, ça n'existe pas et tout. Mais déjà, les nombres existent à l'infini. Simplement, dans cette légère, c'est très étonnant. Comme, je ne sais pas si on trouve beaucoup de choses dans l'Antiquité comme ça. Sans vraiment un bon raisonnement, c'est déjà assez mathématique, hein, c'est moins compliqué. Mais ce n'est pas du tout les sages, comme on essaie de nous présenter les sages chinois, cette espèce de sagesse, Jean de La Fontaine, qui lui cru, un volume de Tullora, ou des choses comme ça. Là, on a un niveau de réflexion philosophique, c'est pas grave. Également au niveau des méthodes, comment un savoir se constitue, un savoir ne parle de rien. Mais déjà, dès qu'on accepte de le considérer comme un savoir et qu'il ne parle de rien, il y a une infinité de choses. Même le plus habile des calculateurs ne pourra pas venir au bout du compte. Que dire alors des gens ordinaires? Même le plus habile des calculateurs ne peut pas venir au bout de ça. Ainsi, qu'on pense que pour aller du non-être, là on passe du non-être, il n'y a plus rien là-dedans, hein, du non-être à l'être, on n'est pas encore à l'être. Hein. On est déjà arrivé à compter jusqu'à 3, et jusqu'à 3, et jusqu'à l'infinité finalement. Que dire lorsqu'on va de l'être à l'être, hein. C'est-à-dire de ce qui est, simplement à regarder ce qui est. Le mieux c'est de s'en abstenir. Et laisser faire la nature des nombres en suspendant son action. Donc là, il y a une analyse de la connaissance humaine qui est énorme. Dans d'autres passages du John Dewey, il dit finalement, le nombre des choses qu'il faudrait connaître, c'est limité. Et finalement, ma vie à moi, c'est limité. Donc c'est des choses qui ne sont pas du même ordre. Et alors, il y a toujours ce côté, un peu comme tout à l'heure, quand on parlait de la voix qui prête à rire, c'est-à-dire que finalement, c'est également une boutade. Et en même temps, c'est à la fois une boutade et un aspect des plus profonds de la pensée humaine. Bah, si vous voulez chaud, n'hésitez pas à ouvrir. Hein. Si vous voulez chaud, n'hésitez pas à ouvrir. Hein.
Non, je
ne
peux pas.
Oh, pour le moment, il n'y a pas de problème. Et donc, vous voyez, je pense que ce deuxième chapitre, ça c'est juste le début du deuxième chapitre, je vous rappelle, après ça continue à avancer, hein, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. C'est pour ça que le fait que souvent on parle juste du Zhuangzi, c'est pour ça que bon, peut-être mieux ce que je disais tout à l'heure en citant l'exemple du papillon. Personnellement, je pense que l'exemple du papillon est l'un des exemples assez nombreux qu'on trouve dans ce livre, où finalement les choses se prennent souvent sous forme d'entretien entre deux personnages réels ou imaginaires, et où à un moment donné, il y a une manière de créer chez l'interlocuteur quelque chose qui est vertigineux. Et donc, le coup du papillon ou d'autres coups qui sont dits dans le Zhuangzi visent à créer chez l'interlocuteur, amener non seulement une déstabilisation, mais d'un coup on le fait penser à complètement autre chose et ça bascule. Et là c'est ça. C'est-à-dire que le personnage a rêvé qu'il était autre chose que ce qu'il est, mais est-ce que c'est lui qui a rêvé ça, ou est-ce que sa vie, ce qu'il croit être sa vie réelle, c'est le rêve de l'autre chose, c'est-à-dire du papillon. Et donc on est souvent dans ce genre de paradoxe. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, quand on regarde dans le Zhuangzi, par exemple, un entretien entre un sage taoïste, ou même parfois il cite Confucius et quelqu'un d'autre, il y a en fait toute une manière de mise en phase de la personne. On a toujours dans ce genre de texte une personne qui arrive avec une problématique, c'est pour ça qu'il va voir le sage, il se passe quelque chose qui lui nuit ou qui pour lui est très grave, il va voir le sage, donc il déboule là, et donc il expose son problème, et jamais il a de réponse à son problème, parce que c'est le propre du non-agir. C'est-à-dire que déjà le sage va l'écouter d'une manière en général souriante, quand il ne fait pas le clown, et donc au fur et à mesure, on voit, il l'écoute, et souvent on dit que par exemple il est accoudé, qu'il regarde l'extérieur, où il se passe je ne sais pas quoi, enfin un joli paysage, ou des choses comme ça, et donc l'autre il arrive avec son problème énorme, et il y a quelqu'un, donc le sage en question qui est venu consulter, qui le regarde, et qui, de la manière dont il se comporte, traduit, une grande paix intérieure. Il a une respiration qui est profonde, il est souriant, donc l'autre il arrive haletant et tout. Et c'est quelque chose qu'on peut soi-même expérimenter, c'est-à-dire que souvent, effectivement, lorsque je parle avec une autre personne, au bout d'un certain temps, l'un des deux interlocuteurs, souvent, comment dirais-je, c'est instinctif, hein, rythme son souffle sur le souffle de l'autre. sa respiration sur la respiration de l'autre. Vous allez voir que, à moins qu'il y ait des conflits très graves, mais vous pouvez difficilement rester à parler longtemps avec une personne, s'il y a par exemple un qui est avec un souffle très serré et l'autre au contraire qui est avec un souffle large. Donc le sage accueille la personne d'une manière souriante, il fait déjà qu'il se calme un peu, donc l'autre se sent un peu mieux, et d'un coup il crée une impression vertigineuse, qui en général n'a aucun rapport avec rien, c'est-à-dire qu'il arrive avec un problème réel, et on lui dit d'un coup, après l'avoir bien calmé, entouré, imaginez d'un coup, je ne sais pas n'importe quoi, hein, un faucon qui fonde sur sa proie. Et donc il y a toujours des impressions de déplacement dans l'espace, ou souvent dans la hauteur. Et donc il crée comme ça une impression vertigineuse, et ensuite, à partir de ça, il va parler tout à fait d'autre chose, et le problème, en quelque sorte, va être posé à plat, et le problème va, en ne faisant rien, d'une certaine manière, se résoudre. Et souvent la résolution de ce problème n'est pas une résolution, j'allais dire, réelle. C'est-à-dire qu'il lui dit, si ta voiture marche mal, au bout du compte, ça va être un problème de carburateur. Enfin, un fascistoïste ne dira jamais une chose pareille, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il va faire que la personne reparte dans un meilleur état. C'est tout. Donc voilà pour mon histoire du début du Zhuangzi. Je vais peut-être aborder un dernier passage, et puis ensuite on verra un peu ce que tout ça peut inspirer. Bon, un passage que j'ai trouvé qui me semble très significatif, parce qu'on emploie souvent dans le Zhuangzi et aussi dans d'autres textes taoïstes le terme du ciel. Et c'est toujours assez difficile à comprendre. Dans le confucianisme aussi, il y a toujours l'idée du mandat céleste, et en fait, par exemple, Confucius ne s'exprime jamais deux fois de la même manière dessus, et donc, vu qu'à chaque fois, il donne des réponses différentes, du coup, il n'y a pas une définition homologuée de la chose. Et là, j'ai trouvé une qui me semble pas mal du tout. Que veux-tu dire par le ciel, et que veux-tu dire par l'humain? Les chevaux et les buffles ont quatre pattes, voilà ce que j'appelle le ciel. Mettre un licou au cheval, percer le museau du buffle, voilà ce que j'appelle l'humain. Veille à ce que l'humain ne détruise pas le céleste en toi, veille à ce que l'intentionnel ne détruise pas le nécessaire. Donc là, on voit bien cette idée, c'est-à-dire qu'il y a les choses qui fonctionnent. Les chevaux ont quatre pattes, avec ça ils peuvent galoper, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Mais le fait de mettre une bride au cheval, ou le fait de percer le museau du buffle, ça c'est humain. C'est-à-dire que pour eux, l'humain doit s'exercer sous la forme d'une contrainte. Enfin, c'est pas qu'il doit s'exercer, il s'exerce sous la forme d'une contrainte, et en tant que tel, il est créateur de déséquilibre. Et donc, ramener à la personne elle-même, c'est ce qu'il appelle... Donc vous voyez, le ciel, c'est pas uniquement le ciel, l'éther en quelque sorte. Veille à ce que l'humain ne détruise pas le céleste en toi. C'est-à-dire que ce ciel en question est également compris dans la personne. C'est-à-dire que la personne n'échappe pas, elle non plus, aux larges mailles du filet du ciel. Et donc, veille à ce que l'humain ne détruise pas le céleste en toi. Il le traduit d'une certaine manière dans un langage plus compréhensible et dit, veille à ce que l'intentionnel ne détruise pas le nécessaire. Et donc là, on revient à cette notion de l'intentionnel dont je vous ai parlé au début, avec le wu-wei, qui est traduit en général par le non-agir, et qui, à mon avis, est plutôt le non-intentionnel. Alors, J'ai un passage après du 7e chapitre, je ne sais plus lequel c'est, le 7e, donc c'est le dernier de la partie interne. Je crois que c'est un chapitre qui est très intéressant. Juste un petit instant, je le recherche. Ah oui. Oui, non, c'est pas ce que je pensais. Bien, ne te fais pas le réceptacle du renom, la résidence du calcul, ne te comporte pas en préposé aux affaires, en maître de l'intelligence. Fais plutôt par toi-même l'expérience du non-limité. Évolue là où ne se fait encore aucun commencement. Ce qui est assez proche de notre affaire au début avec les ensembles vides là. Tire pleinement parti de ce que tu as reçu du ciel, sans chercher à te l'approprier. Contente-toi du vide. L'homme accompli se sert de son esprit comme d'un miroir. qui ne raccompagne pas ce qui s'en va, qui ne se porte pas au devant de ce qui vient, qui accueille tout et qui ne conserve rien, et qui de ce fait embrasse les êtres sans subir de dommages. Alors la femme, c'est un petit peu, tu vas comprendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, dans les protocoles de l'époque, et même dans la bonne éducation normale, c'est très important de se porter au devant d'un visiteur et de raccompagner un visiteur. Même quand quelqu'un part en voyage, donc à l'époque c'était voyage à pied ou à cheval, il y a toujours toute une délégation de ses amis, etc., qui l'accompagne pendant quelques kilomètres. Et plus on aime la personne et plus on l'accompagne longtemps. Donc on fait ça pour quand même des grands voyages, parce que si le gars il va pas très loin, on va pas tous y aller avec lui. Et donc là, il dit, lui, il propose un comportement qui est complètement autre, c'est-à-dire vraiment un comportement comme le miroir. En fait, je ne sais pas ce que le miroir reflète quand j'y suis pas. Donc, le miroir, lui, ne bouge pas, il ne se déplace pas pour accompagner les gens, mais il accepte tout. Toute personne qui arrive pourra se mirer dans le miroir. Et quand il s'en va, le miroir le voit s'éloigner, mais il ne l'accompagne pas. Et donc, lui, c'est ce qu'il propose comme, en quelque sorte, comme règle d'action vis-à-vis des choses, vis-à-vis des gens. C'est-à-dire non pas de passer vis-à-vis des personnes à un niveau de l'intentionnel, je veux qu'un tel devienne ça, ou je veux être considéré comme ceci par lui, mais il arrive, je l'accueille comme le miroir dans lequel la personne se regarde. Et donc le miroir remplit toutes les... il fait rien, mais il remplit toutes les fonctions qu'on attend de lui quelque part. Le miroir ne fait rien, la personne arrive, elle peut se regarder, il s'en va, le miroir voit la personne s'éloigner. Et donc là, on voit qu'on est bien dans cette espèce de démarche du non-intentionnel. Et le but donc n'est pas de se faire le réceptacle du renom, la résidence du calcul, en mettre de l'intelligence, mais plutôt de faire l'expérience par soi-même de ce qui n'a pas de limite. Donc vous voyez, on est tout à fait dans un autre domaine. Évolue là où ne se fait encore aucun commencement. Alors, il y a chez eux l'idée que effectivement, il y a une sorte de point, mental, qui est avant le commencement de toute action. Et nous, en fait, non seulement on ne voit pas ce point, mais on ne peut pas y rester parce qu'on veut, à cause de l'intention, s'engouffrer dans l'action. Et donc je dis, je veux faire ça pour tel résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc nous, on veut immédiatement s'engouffrer dans l'action. Eux, ce qu'ils prônent, c'est plutôt une sorte de retenue et de se tenir, mais comme au bord d'une falaise, hein, devant l'action, où toutes les actions sont possibles, et de regarder ça, et de certaine manière de s'en contenter. D'ailleurs, d'après les taoïstes, quand on est à ce point-là et qu'on regarde, il paraît qu'on a l'impression effectivement de ce qu'ils appellent une grande béance, c'est-à-dire un grand vide, un grand trou lumineux. Et donc pour eux, c'est la source de toute énergie. C'est la source de toute chose. Et donc c'est là où théoriquement il faut se tenir. C'est une démarche mystique. Hein. Pas mystique, je ne sais pas si c'est un, mais c'est à peu près ça.
Qui a dit souvent qu'il y a plus de choses.
Complètement pas. Moi, je pense qu'il y a très peu de taoïstes à l'heure actuelle, même s'il y a pas mal de temps pour que ce soit, mais je pense que c'est sans doute parmi les mouvements chinois, les mouvements de la philosophie antique chinoise, le plus, à mon avis, difficile et le plus éloigné de nous. Ça, j'en suis convaincu.
Ça peut être vécu par des moines, mais
c'est pas la chose. Théoriquement, ça peut être vécu par des bouchers également. D'après le... Je pense pas que ce soit un idéal de contemplation, par exemple.
Peut-être
par des artisans. Oui, enfin bon, mais je pense pas qu'il y ait non plus un type social, en quelque sorte, du taoïste. Je pense que c'est une démarche mentale et une démarche intellectuelle qui est extrêmement loin. Là, vraiment, on a affaire à autre chose. Hein, que ce qui prévaut ici, à tout point de vue.
Hein. LDB, on parle de la...
Oui.
La suspension du jugement.
Oui. Oui. Mais c'est pour ça que justement, en citant l'exemple, dès l'instant où j'instaure le 1, etc., c'est vrai qu'on va trouver là-dedans des choses qui peuvent nous faire, à nous, penser à Heidegger. Mais c'est pour ça que je pense que cet exemple-là, si on l'avait fait paraître sans dire ni d'où ça vient ni quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a pratiquement personne. Ce genre de sage-taoïstes ne sont pas du tout, je pense, là où on attend, de manière un peu caricaturale, les sages chinois. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions ou des choses diverses sur... bon, là, je vous ai amené pas mal de textes, mais c'était quand même dans le but, parce que, bon, on fait que deux séances sur le taoïsme, c'est quand même... j'espère que je ne vous ai pas assommé à coups de citation d'une manière trop violente, hein. Mais c'était quand même pour donner une impression, parce que, vous voyez, tous ces textes que j'ai choisis sont quand même très différents, je pense, chacun de ces extraits les uns des autres. Et si j'ai pris juste un ou deux extraits du Tao Te Ching et un ou deux extraits du Zhuangzi, je pense que vous auriez une vue sans doute moins synthétique de la diversité qu'il y a dans ces textes. Et moi, je peux vous dire, je suis vraiment très étonné d'un point de vue philosophique que ce genre de grands penseurs chinois soit ici en général relativement ignoré, peut-être un peu moins dernièrement. Au niveau philosophique, déjà on peut faire des études complètes en philosophie sans aborder du tout, moi je trouve ça c'est quand même assez admirable, les philosophies qui ont été celles de la majeure partie des êtres humains qui ont vécu sur cette terre. Alors effectivement c'est bien de se spécialiser, hein, mais ça me semble quand même difficile à notre époque pour quelqu'un qui voudrait vraiment avoir une vue un petit peu synthétique déjà de la philosophie des humains, pas juste de la philosophie grecque et ensuite française, mettons, mais de laisser complètement de côté et la Chine et l'Inde. Oui.
Le problème peut-être, c'est que vous faites cette philosophie-là, en plein terme, enfin, à ma connaissance, mais c'est une question, elle a été reprise après en Chine, après il y a eu le bouddhisme, mais après il y a eu comme lui, en tout cas à ma connaissance, je ne sais pas, de philosophes, de courants philosophiques qu'on fait vivre quelque chose. Est-ce que je pense que ça a eu après, entre le bouddhisme qui a suivi,
alors, c'est une question qui est, à mon avis, qui est vaste. Et la vue que j'ai, elle est un peu, à ce niveau-là, elle est un peu bizarre parce qu'en Chine, la notion de philosophie a toujours été mêlée à celle de pouvoir. Non seulement de pouvoir, mais d'organisation des affaires humaines. Enfin, de la société, de la politique, de l'économie, etc. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que ce genre de penseurs comme Zhuangzi, comme Confucius, ou d'autres de la même Mozu, de la même époque, sont des gens qui sont de la Chine pré-impériale. C'est des penseurs de l'époque féodale. L'époque féodale en Chine, c'est ce qu'on appelle l'Antiquité chez nous, au point de vue du temps, quoi. Ça s'arrête au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et je pense que après le régime féodal, il s'est mis en Chine en faisant des emprunts à ce genre de penseurs, surtout à Confucius, mais également pour beaucoup à Lao Tzu, il s'est mis en place un régime qui a duré jusqu'à maintenant et qui était un régime, d'une certaine manière, qui a complètement, mais en une fois, je pense que ça s'est passé à l'époque des Han, c'est après le deuxième siècle, en une fois qui a tout remodelé et qui a fait un système de pensée qui a duré jusqu'à maintenant. Donc on n'est absolument pas du tout dans l'idée d'une philosophie. On n'est pas dans l'idée d'une philosophie, on est plutôt dans l'idée d'une doctrine ou je ne sais pas moi, ou de... Imaginez par exemple que le régime que Staline avait mis en place durerait éternellement, que le régime communiste ne se soit pas effondré. Ce régime s'appuyait sur des bases philosophiques. Marx, Engels sont des philosophes, entre autres. D'accord ? Et si cette chose avait duré tout le temps, il n'y aurait pas pu y avoir de nouveaux philosophes qui aient la même taille que Marx dans un pays communiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui ont pensé. Mais le régime, dès lors que ce régime s'est mis en place avec ça, ne peut pas admettre qu'il y ait des personnes, etc. C'est pour ça que le bouddhisme, lui, est venu après, mais d'une manière, je peux dire, exogène en quelque sorte. Et il a eu son évolution à lui que dès lors qu'il n'a pas voulu changer les fondements même de la structure impériale. À mon avis, cette structure impériale est encore celle que vous voyez en Chine actuelle. Même, bon, c'est pas l'empereur, ben, c'est interdit, etc., et tout ça, mais c'est l'idée qu'il y a, que le principal rôle du peuple, ben, c'est d'obéir à quelque chose, c'est la servitude volontaire, hein, d'obéir à quelque chose à quoi il n'y a pas à obéir, c'est l'ordre normal des choses. Et que c'est en étant dans l'ordre normal des choses que je suis à ma place et tout. Mais qu'il y a une personne qui reçoit ce que les Confucéens auraient appelé le mandat céleste, et qui lui doit être le pivot, donc là c'est peut-être le parti communiste, je ne sais pas, le pivot entre le ciel et la terre. Et donc une fois que cette... ça ne veut pas dire que la pensée chinoise a stagné après, mais une fois que cette chose a été mise en place, je ne pense pas qu'il y ait eu des penseurs qui aient pu avoir le rôle majeur comme par exemple Zhuangzi ou Confucius. Mais donc, c'est pour ça que beaucoup, à mon avis, quand même, d'intellectuels français qui écrivent beaucoup sur la Chine, actuellement il y en a quelques-uns qui pondent plus d'un bouquin par an quand même, ces gens-là pensent en quelque sorte qu'il y a une sorte de pensée chinoise, de je ne sais pas ce qu'ils appellent la pensée des lettrés, par exemple, des choses comme ça, qui existe en tant que telle, mais je pense que ce qu'ils appellent eux la pensée des lettrés, c'est ce que j'appellerais moi l'idéologie impérialiste, en Chine, hein, pas ailleurs. Et donc, que pour moi, ça, ce n'est pas la... ça a été une forme extrêmement importante de contrôle. Il faut bien se rendre compte que, si vous voulez, je pense qu'actuellement, la Chine est le seul empire antique qui existe encore. L'Empire romain n'existe plus, l'Empire mongol, enfin, mongol, c'est le Moyen-Âge, c'est pas là. Mais donc, la Chine actuelle est à peine plus grande que la Chine de l'époque des Qing, qui a donné ce que nous, on appelle... la Chine, et donc ça fait 2 siècles avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre pays, enfin même empire, parce que c'est quand même difficile de faire, l'Empire égyptien n'existe plus, l'Empire romain non plus, etc. Il n'y a pas d'empire qui ait duré comme ça plus de 2000 ans. Et en plus, il faut voir à travers quelle vicissitude, hein, parce que ça passait de la tarte.
L'Empire germanique aussi.
Oui, mais enfin, ça c'est une création qui est quand même beaucoup plus récente et qui est beaucoup moins grande, parce que là il y a une carte du monde sur le machin, parce que c'est sûr qu'il y a des pays, si vous voulez, qui existent encore maintenant, je sais pas, et qui existaient durant l'Antiquité, mais encore c'est pas évident. Mais quelque chose avec tellement de tensions internes, tellement de peuples différents, de langues différentes, et qui tiennent, c'est pas évident. Il y a l'exemple de l'Inde d'une certaine manière, mais c'est moins évident, hein. Parce que là, il y a tellement de moments où c'était démembré, remembré, etc. Alors que la Chine, je dirais, elle a quand même bon nombre de mal an, sauf à certaines époques de partition, puis en tant que bloc, avec la même langue, avec le même système graphique. Oui. Je veux dire, actuellement, on lit Confucius, peut-être pas comme on lit le journal, mais un Chinois normal le lit très facilement. Nous, à part des gens qui ont fait des études très importantes, il n'y a personne qui lit des penseurs qui ont existé à 2500 ans et pour qui ça semble très intemporel. En Chine, quelqu'un qui lit Confucius, on lui parle de la politique actuelle. Donc Confucius, il ne pense pas au truc des... etc. Donc cette espèce de permanence de l'Empire, à mon avis, a été possible, non pas par ces textes philosophiques que j'ai dit, mais par une manière dont amené certains doctrinaires ont orchestré cette philosophie. Et sans d'une manière, à mon avis, experte, au moins ça a duré.
Et d'autres empires auraient pu durer, comme en Afrique, s'ils n'avaient pas été envahis. La Chine a été envahie,
oui.
Entre guillemets, que très tardivement. Effectivement, le système a pu durer. Oui, mais c'est la conscience des Chinois qui nous a maintenus. Parce que n'importe où ils soient, ils sont Chinois, c'est tout.
Oui.
Et ils transportent
le
Confucius et tout le monde,
Ouais. Là, il y a une chose qui est assez drôle, c'est le... Nous, on appelle les Chinois, des Chinois. Ouais. C'est-à-dire que ça vient de la dynastie des Qing, qui était le premier grand empereur, qui a duré très peu de temps, je crois, il a duré 15 ans ou quelque chose comme ça, son empire. C'est celui qui a fait la Grande Muraille, c'est celui qui a fait le... qui a été le premier à mettre tous les régimes féodaux de petits princes, etc., de les mettre à bas et de constituer un empire. C'était Qin Shi Huangdi, le premier empereur Qing. Et donc, nous, moins de 160 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est lui qui a essayé d'éradiquer le confucianisme, ça n'a pas marché. C'était un homme assez volontaire quand même. Et donc, malgré l'Empire, avant lui, c'était la culture chinoise, mais le terme n'existait pas, mais c'était des pays différents. Et donc, nous, je ne sais pas exactement où c'est, je pense que c'est l'époque à peu près des Romains, qu'il y a ce mot de China ou je ne sais pas quoi qui est arrivé, et qui fait que maintenant, nous, donc, on emploie le mot de Qing, enfin de Chine en français. Les Chinois ne disent jamais qu'ils sont des Qing, ils sont des Han. La race des Han, les têtes brunes. Et donc ce sont des. Un Chinois est se voit comme un Han. Et donc on distingue en Chine les gens qui sont de race, que nous on appellerait les Chinois. Enfin, en Chine tout le monde est Chinois, mais. Et les gens qui sont de l'ethnie non Han. Donc les Han se forment la majorité. Et les Han, c'est la. Comment dirais-je. C'est la dynastie. Après les Qing, il y a une époque. De guerre, etc., qui n'a pas duré très longtemps. Et les Han, donc, c'est la première grande restauration qui arrive après les Qing et qui a duré jusque un petit peu après le début de l'ère chrétienne, jusqu'au 1er siècle, 2e siècle à peu près.
Combien de siècles ?
Comment ?
Siècles ?
Oui, à peu près. Ils ont duré trois siècles, les Han. Et c'est à cette époque-là, et non pas à l'époque des Qing, que s'est mis en place cette idéologie impériale, où à la place de combattre le confucianisme, etc., on a, ce qui est beaucoup plus malin, on a revisité ces textes-là, et on leur a donné une dimension politique qu'à mon avis, ils n'avaient absolument pas. Et on a pour beaucoup effacé la dimension humaniste qui est dans ces textes. Et donc, cette époque-là, les Chinois se disent encore aujourd'hui des Han. C'est-à-dire que le régime idéologique qui s'est mis en place sous les Han a pu perdurer probablement jusqu'à aujourd'hui. Et ce régime idéologique est une refonte essentiellement du confucianisme, mais également du taoïsme et d'autres penseurs de l'époque, mais une refonte très politique hein, et à mon avis qui trahit beaucoup les choses. Je pense qu'il y a toujours la même chose entre le christianisme, on peut dire, je sais pas, originel, et les premiers empereurs romains qui ont été chrétiens, qui ont voulu étendre ça. Mais ça a duré. Et ça a duré sans être expansionniste. Ça a duré là où c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses qui peuvent durer, mais en se nourrissant de l'expansion. Mais là, une fois que. C'était vraiment une sorte de révolution, à mon avis, de la culture. Là, c'était une vraie révolution culturelle, ça. Une fois qu'il y a quelqu'un dans son cerveau qui a pu arriver à orchestrer le confucianisme, hein, le taoïsme, quelques autres penseurs, les légistes, des choses comme ça et tout, et qui a proposé ça, parce que pour pouvoir les machines à penser, c'était hein, Confucius, Lao Tzu, etc., c'est incroyable, hein, qu'il a pu réussir à débuter ça et à faire qu'on puisse le calquer sur la société et faire une société qui serait théoriquement naturelle, mais qui serait le reflet exact de ça. Alors, vous avez un système, c'est même pas social, c'est culturel, qui a pu durer vraiment énormément de temps. Et donc, c'est normal qu'une telle chose, moi j'en sais rien, on peut pas refaire l'histoire, mais ça aurait pu aussi ne pas prendre. Parce que ça n'a pas manqué, je veux dire, dans les différents pays, des tyrans en tout genre qui ont voulu faire que l'histoire commence à eux et qui ont proposé une revisitation complète de tous les systèmes culturels de leur époque. Mais là, ils ont fait cette chose et ça marche. Et ça a marché, donc il y a quelqu'un de grand, ou plusieurs personnes, extrêmement intelligentes. Et donc.
Il y a des invasions
pour ça. Oui, mais une fois que le truc culturel existe, c'est dans la tête. Hein. Si vous faites qu'il y a 100 millions de gars qui prend un truc, il le prend, hein. Même vous pouvez l'envahir. Hein. Ouais. Regardez, s'il va dans différents pays du monde, tant que le gars fait dans la tête et que ça fonctionne dans sa tête, c'est pas celle de lui taper sur la tête qui changera quoi que ce soit. Hein. Et donc, en Chine, ce qui s'est passé.
Les Mongols ont beaucoup d'importance quand même.
Oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais justement, le clair. Oui. Donc, ils pouvaient assimiler n'importe quoi parce qu'ils avaient un modèle culturel qui était supérieur à celui des Mongols, à celui de toutes les tribus qui défendaient du Nord. Donc, le but, ce n'était pas de préserver un pays comme ça avec les gens, etc. C'est que, bon, évidemment, ils se sont défendus des invasions, etc. Mais Il y a eu sans cesse des gens qui sont descendus, les Xiongnus, les Mongols, etc., toutes sortes de Turco-Mongols, de Huns, etc., qui sont descendus. Mais donc, ils ont été digérés par le système culturel, ces gens-là. Moi, à mon avis, même le communisme a été digéré par le système culturel.
Oui,
enfin, il
est
en train de l'être.
En train, je veux dire. Mais pourtant, dans les textes, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a, à la base, aussi bien dans le taoïsme que dans le confucianisme, il y a un souci de politique. Il y a un souci de faire vivre les gens entre eux.
Oui.
Hein? Ah, je crois que ça vient du fait que, finalement, c'est une société qui est déjà, même au départ, probablement, très nombreuse. Et en fait, ils vivent sur des terres qui ne sont pas très importantes. Je parle des terres cultivables. Donc, il faut arriver à vivre en supportant. Et donc, c'est un peu des moyens qui ont été donnés par ces gens-là. Et après, finalement, l'Empire s'est basé là-dessus.
Moi, je pense quand même que...
C'est ouais. Une hypothèse, hein, ouais. Ça, je pense que ça vaut. Mais on sent, il y a un côté terrien.
Oui, terrien, oui. C'est la religion des âmes. Oui. Mais à mon avis, ce n'est pas lié au nombre de personnes. Parce que c'est quand même des visages, c'est des entités petites. Et moi, je pense pas que je pense qu'il y a eu la religion paysanne d'une part, donc il y a une importance très, très importante pour structurer l'esprit chinois, et je pense qu'il y a eu le génie Confucius. Et donc là, je veux dire, bon, vous avez un type qui est génial, je sais pas, c'est Léonard de Vinci, quels sont les... qui vous voudrez, vous voyez, je veux dire, mais quels sont des hommes, je sais pas quoi, mais quelles sont les causes qui peuvent expliquer que ça, que le gars qui est né dans la même société, mais une maison à côté, était moins génial que les hommes, et qu'aujourd'hui plus personne ne se rappelle de son nom, vous voyez ce que je veux dire. Donc Amni est quand même, dans l'esprit humain, il y a un cocktail qui se fait, et il y a un truc qui prend place. Et une fois que le truc a bien pris place dans la tête de la personne, après ça peut se dupliquer. Et ensuite, je pense que après la religion paysanne, les grands philosophes, Confucius, Mozu, etc., après vous avez eu toute justement cette espèce de mise en place de l'idéologie impériale au temps des Han, et bon, qui a perduré, bon, c'est un peu rapide, hein, parce que je peux essayer de faire en trois mots l'histoire de... Mais je pense qu'au moins les divisions sont à peu près bonnes pour comprendre. Et que je pense que si on ne tient pas compte de cette division, on a une vision de la Chine, souvent un peu comme dans beaucoup de livres qui paraît, où il y a quand même des télescopages dans le temps qui sont un peu délicats.
Enfin, le taoïsme n'a pas l'air très
actuel. Dans toutes les villes, il y a des temples, etc. Bon, maintenant, c'est devenu une religion en tant que telle, mais je pense, si vous voulez...
Quelle est un peu proche de ce que vous nous avez expliqué, là.
C'est difficile à dire.
C'est tellement social.
Les taoïstes, certains des grands taoïstes,
oui.
Avaient conscience de ce qui allait arriver à la Chine et qu'ils ont disparu après la révolution communiste. Moi, j'ai entendu dire ça.
C'est bien possible.
Ouais.
Oui.
Mais c'est pas vraiment de l'élite. Hein.
Beaucoup de gens.
Ils ont disparu, on ne sait pas trop oui. Où et comment. Est-ce qu'ils sont réutilisés comme là au-dessus?
Théoriquement,
ou est-ce qu'ils sont partis à Taipei ou je ne sais pas où?
Théoriquement, un bon taoïste doit arriver à...
Oui, il y en a plutôt, voilà. Mais il y en a certains qui ont eu la prémonition de ce qui allait être passé. Mais qui sont partis, enfin qui sont disparus dans la nature.
Moi, je pense que la révolution culturelle était quand même quelque chose d'assez violent et d'assez cruel. Hein.
Mais
je pense.
Déjà fait avant, hein.
Oui, tout à fait. Mais enfin, là, on est passé à une dimension plus industrielle de. Mais écoutez, je vous remercie. C'était vraiment un bon moment. La prochaine session, j'ai plus les dates. Je crois que c'est au mois de mai. Je n'ai pas pris le dépliant. Le 26 mai. Donc là, c'est le bouddhisme. Hein. Et donc, on va passer un petit bout de temps sans se revoir. Et alors, avec le bouddhisme, là, on va être... Bon, certaines personnes sont déjà venues aux conférences que j'ai données l'an dernier sur le bouddhisme. Hein. Ça. Bah oui, là. Voilà. Merci.
Merci.
J'ai eu l'occasion un jour de rencontrer une dame
qui
faisait faire des exercices de relaxation. Elle m'a raconté une chose qui m'avait impressionné. Elle disait que Mao était un grand lettré, hein, c'est qu'il y a eu une réforme qui a été faite au moment de Mao dans l'écriture chinoise.
Oui, c'était une réforme.
Et cette réforme était volontaire. Enfin, il y avait, paraît-il, dans les caractères chinois anciens, ce qu'on appelle un germe.
Il y a un oui, la clé. Oui.
Et ça, ils l'ont enlevé. Parce que c'est l'élément vital du caractère. C'est ce qui lui donne sa force. Et donc, on l'a enlevé. Donc, c'est vide aussi. Parce que nous avons.
Oui. Parce qu'il y a eu deux réformes qui ont été faites. La première était encore plus forte que ça, mais c'est depuis quelques jours, c'est le fait de supprimer les caractères. Et de recourir à l'écriture comme la nôtre.
Oui.
Et donc ça a duré que quelques jours et c'était des gens étaient fous. Même il fallait écrire. Et puis à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de passe-passe que maintenant, encore qu'en Chine, ça
fait plus de passe-passe.
Et puis même le BHP, enfin tout le monde, les facteurs ne pouvaient plus lire les adresses sur les enveloppes du courrier. Ouais,
c'est idiot de faire ça du jour au lendemain, évidemment.
Mais à l'époque de la révolution culturelle, il y a des choses qui sont passées, hein, c'est pas un problème. Parce que justement, Mao était tellement craint et entouré d'un petit groupe d'hommes qui avaient tellement peur. C'est-à-dire que tous avaient beaucoup de pouvoir, mais en même temps ils craignaient pour leur vie, que donc d'un coup il dit hop là on fait une révolution, on fait un changement complet de l'écriture, et immédiatement il y a des qu'il met en place, hein, et même plus vite, et le but c'est de se faire remarquer comme étant le bon élément. Et après ça, il y a eu une simplification. Après on est revenu de nouveau aux idéogrammes, et ensuite il y a eu une simplification des idéogrammes qui a donné le chinois actuel, enfin celui qu'on
oui, mais qui change en fait. La nature du chinois, c'est-à-dire qu'elle n'a plus, ça n'a plus la force de l'idéogramme. Ça, c'est ce que vous avez dit.
Ouais. Alors, c'est pas entièrement.
C'est une force symbolique.
Moi, je préfère le chinois ancien que le.
Ah voilà. Parce que le symbole y est. Parce qu'après, il n'y est plus. Si. Ou tout au moins, il est castré.
Oui, un peu.
Hein, c'est ça.
Il n'est pas immédiatement visible, mais les personnes peuvent le reconstituer.
Oui, mais enfin, ceux qui ont de la culture, peut-être. Mais pour le grand peuple.
Mais c'est par exemple ce qui est important. Ce que je remarque, c'est que dans le dictionnaire chinois actuel, il y a la graphie actuelle, mais ils mettent la graphie
depuis tout le temps. Bon, c'est pas très commode.
Oui.
C'est pas vivant comme celui qui lit son texte qui se pénètre des symboles.
Moi, à mon avis, là où ça a été quand même un peu dur, c'est que, si vous voulez, il y avait par exemple des caractères qui se prononçaient pareil, qui s'écrivaient à peu près pareil, qui pouvaient signifier des choses à peu près pareilles ou un peu différentes. Et donc, il y avait 5-6... Oui, dans le nom simplifié, il y avait 5-6 mettons caractères comme ça, et certains étaient extrêmement inusités. Et une fois qu'ils ont été simplifiés, ceux-là, il n'y en a plus que pour les 5 ou 6, un seul. Donc la pensée perd quand même
des
nuances.
Oui, bien sûr, oui.
Et moi, ce qui me semble aussi un peu dangereux dans le vis-à-vis de la culture ancienne, hein, je parle, mais dans le dans cette simplification de l'écriture, c'est-à-dire que maintenant qu'elle a eu lieu, on peut penser à une simplification encore ultérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est possible qu'en quelques générations, le chinois écrit dégénère énormément.
Oui, mais enfin, moi, ce que je. Enfin, autant que j'ai pu comprendre, parce que je suis chinois, mais autant que j'ai pu comprendre, c'est quand même un langage symbolique. Et ce qui est plus, c'est de retirer la valeur du symbole, parce qu'à ce moment-là, il est plus vivant, c'est un langage qui est plus vivant. Il devient abstrait, c'est l'autre, d'ailleurs.
Oui, en partie. Mais ça, à mon avis, c'est pas entièrement fait. Bon, j'espère que ce ne sera jamais fait.
Oui. Enfin, c'est sur la route.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est d'aujourd'hui.
Aujourd'hui et la fois dernière.
Ah, tout hier.
Oui.
C'est le système alors qu'ils avaient essayé d'utiliser leur société. C'était un peu comme, comme ce qu'on fait, qui est fait chez les Vietnamiens, non ? C'était un peu ça, non ? C'était différent.
Je ne connais pas les Vietnamiens, mais je crois que eux,
les Vietnamiens,
eux et les Coréens sont passés un truc qui est vraiment complètement simplifié. Quand on a un truc en vietnamien ou en coréen.
Les Vietnamiens, ils utilisent les
caractères ordinaires, alphabétiques.
Oui, mais ça, c'est un carbone. C'est Monseigneur de Rhône qui a fait ça au 18e. Alors, bon, il a rajouté des signes parce qu'il y a des sons qu'on ne peut pas rendre directement. Mais enfin, en gros, c'est quand même. On arrive à le lire, quoi.
Ouais.
C'est déjà pas mal.
Mais c'est, mais c'est sûr que c'est un appauvrissement considérable.
Ah, c'est sûr. Hein. Ceci dit, bon, le vietnamien, c'est pas le chinois. Hein,
mais dans le monde, ça s'écrivait en.
Oui, enfin, je veux dire, il n'y a pas la même correspondance entre caractère et son, quoi. Phonème.
Oui,
c'est différent,
moi je pense.
Ah oui, c'est différent. Au prononcé.
Oui. Bien, merci.
Merci.
Camarades, lors de la révolution a sonné.
Alors, est-ce qu'il y a parmi nous donc qui veut jouer ? Parce qu'on avait.
Mais non, mais Nicole, t'as dit qu'on pouvait pas ce soir, non ?
Parce ah bon ?
Parce qu'on n'a pas dit.
Non. Elle m'a dit que. Non, elle m'a dit que vous étiez invité, je ne sais pas où, mais elle m'a dit que je peux changer la date. Elle m'a dit.
Ah non, alors avant, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas changer la date. Ah bah. Elle m'a chargé de te dire qu'effectivement, on ne pouvait pas.
D'accord.
Mais qu'elle te l'avait dit d'ailleurs. C'est les juges qui attirent, on aurait pu. Oui.
Moi, je lui ai dit, même fait venir à la conférence, il n'y a pas de problème.
Je suis en train de faire une.